Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jiggy da, kani jiggy mi senya, omanyi kobena.
It's okay, you know, it's okay.
Sans doute compris à l'écoute de ces quelques notes caraïbes matinées de jazz, nous allons cette semaine évoquer les échanges interculturels que l'histoire des peuples de la planète nous suggère. Pour cela, nous avons fait appel à un journaliste, auteur de documentaires et d'ouvrages consacrés aux musiques populaires, comme celui qui va susciter notre conversation du jour. Ni noir ni blanche, l'histoire des musiques créoles, Bertrand Dical, soyez le bienvenu.
Bonjour.
Je ne vous cacherai pas que votre petit livre de 300 pages, riche, savant et exigeant, m'a profondément interpellé car il interroge nos connaissances réelles sur l'épopée des musiques noires. Et d'ailleurs, vous vous posez la question de ce terme « musique noire ». Est-il impropre, infondé ?
Pas forcément impropre, pas forcément infondé, mais certainement abusif. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est pas parce que quelqu'un est noir et joue une musique que cette musique est noire. En fait, une partie de ma réflexion, et je le raconte dans le livre, est née d'une conversation avec Wynton Marsalis, qui est incontestablement jazzman et qui est incontestablement noir. Et en fait, dans les années 90, à force d'interviewer Wynton Marsalis, on avait fini par avoir, non pas une amitié, ce serait un peu abusif de dire ça, mais on se croisait régulièrement et après l'interview, on buvait un verre, on papotait, etc. Et après avoir utilisé 4 fois l'expression « black music » dans une conversation, il m'a regardé avec beaucoup de commisération fraternelle en me disant « mais tu sais Bertrand, ce n'est pas parce que beaucoup de noirs jouent du jazz que le jazz est une musique noire. Il y a beaucoup de noirs qui jouent du basket. Dans ce cas-là, le basket, est-ce que c'est un sport noir ? Est-ce que la conquête de la lune est une aventure blanche ? Il n'y a que des blancs qui sont allés sur la lune. Mais est-ce que c'est une aventure blanche ? Est-ce que c'est une aventure américaine ? Est-ce que c'est une aventure pour l'humanité ? Et ça a fait le début d'une réflexion qui a rejoint quelque chose qui est une gêne qui existe depuis longtemps, qui est que je suis antillais. Je suis comme beaucoup d'antillais, je suis métis, sans mêlée, mulâtre, appelons ça comme on veut. Et pour moi, voir le monde en noir et blanc est quelque chose de forcément compliqué. Et cette vision de musique noire et musique blanche m'a toujours gêné parce que les musiques de tambour de la Guadeloupe, par exemple, sont des musiques qui me font vibrer moi tout entièrement, mais ça me fait vibrer entièrement, pas uniquement ma partie noire. Et c'est vrai que j'ai toujours été gêné par cette idée de musique noire. Et plus j'ai avancé dans l'étude, dans la réflexion, dans le travail, y compris dans le travail professionnel, puisque j'ai enseigné à la fac sur ces musiques-là, sur les musiques de l'arc créole, plus j'en suis arrivé à cette sensation évidente que dire musique noire est non seulement une erreur pour beaucoup de musique, en ce qui concerne beaucoup de musique, et en plus une erreur qui cache un certain nombre de choses. C'est-à-dire que quand on réfléchit en musique noire, on va dire par exemple, pour les Antilles françaises, le gros cas, le bel air, ça serait des musiques noires, et la biguine, ça serait quoi ? Une musique mulâtre, une musique blanche, une musique... Mais à partir du moment où un chanteur antillais chante le plus beau de tous les tangos du monde, succès de Alibert dans les années 30, il en fait quelque chose qui est absolument de la musique antillaise. Mais est-ce que c'est de la musique blanche parce qu'elle a été écrite par un blanc ? Ça veut rien dire.
Revenons au terme musique noire, qui est un terme certes très générique, mais il revendique. Il affirme la place et la valeur des traditions africaines dans le processus de créolisation. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Alors, on a tendance à parler, à dire qu'il y a de la culture africaine, de la culture européenne, de la culture asiatique, parfois, dans la naissance des musiques créoles et des cultures créoles. Dire culture, en ce qui concerne les apports européens ou africains, c'est très exagéré. C'est des débris, c'est des lambeaux. Et c'est pour ça que ça devient des cultures intéressantes, c'est pour ça que la créolité est aussi féconde. C'est-à-dire qu'un esclave qui arrive, qui débarque du bateau, c'est un homme nu. Il n'a plus de société, il n'a plus de famille, il n'a plus d'espoir, il est dans une situation de désespoir individuel qui est absolument atroce. Il vient de traverser un ensemble de traumatismes absolument épouvantables. C'est un survivant. C'est un survivant d'un cataclysme. C'est un survivant de la destruction d'un monde. Donc pour ça, c'est une évidence. Il y a des lambeaux, des débris de culture qui surnagent à la surface de ce qui est, disons-le, une dépression nerveuse pour chacun de ces esclaves. Et puis en face, il y a des Occidentaux. Mais il ne faut pas croire que les Européens, ils arrivent avec une société puissante. Les sociétés créoles naissent avec des volontaires, des colons européens, qui sont des militaires qui n'ont pas eu le choix, des marins qui n'avaient pas beaucoup plus le choix, des gens qui ont été raptés dans les prisons, qui ont été ramassés dans les bagnes, qui sont des ivrognes qu'on a ramassés dans les auberges, dans les ports, et à qui on a dit « tu vas traverser l'Atlantique, tu vas fonder un pays ».
Et on ne traversait pas l'Atlantique en 3 heures.
Et on ne traversait pas l'Atlantique en 3 heures. Et surtout, il ne faut pas oublier que ce qui existe là-bas, ce n'est pas des sociétés. Pour ce qui concerne les Antilles, le début du Brésil, le début même des colonies américaines, ce sont des gens qui sont dans des situations de désespoir personnel et qui affrontent des conditions climatiques et médicales qui sont effroyables. Donc, ce sont des débris d'Europe et des débris d'Afrique qui vont fabriquer ces cultures créoles.
Quand vous entendez Dizzy Gillespie, qui a ouvert cette émission, jouer avec les tonalités calypso de Trinidad et le jazz américain, produit-il une musique créole ?
C'est une évidence. C'est une évidence. Édouard Glissant disait, ce qui fait la créolité, c'est que quand vous additionnez des éléments, la somme est supérieure au produit arithmétique. C'est-à-dire que vous prenez un peu d'Europe, vous prenez un peu d'Afrique, vous prenez un peu d'Asie, et ben ça fabrique quelque chose de plus que ce mélange-là. Ça fabrique quelque chose d'autre. Ça fabrique quelque chose qui va plus loin.
Donc ce n'est pas une juxtaposition de cultures,
ce n'est pas du tout
ni une fusion, c'est autre chose.
C'est autre chose. On invente avec des éléments qui viennent de n'importe où, et avec des éléments qui vont changer de goût. C'est-à-dire qu'on met des éléments. On voit bien ce que sont ces éléments. C'est un tambour, c'est un pas de danse, c'est une religion. C'est une langue, on voit bien quels sont les éléments, mais soudain, ça fabrique quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que si on fait la liste des musiques créoles, on a vraiment le vertige. Ce sont dans chacun des territoires, et un territoire, c'est Saint-Kitts-Nevis, c'est la Désirade, c'est la Martinique, c'est des petits territoires, c'est pas uniquement des énormes puissances culturelles comme les États-Unis. Chacun de ces petits territoires a suscité 5, 10, 15, 20 genres musicaux dont on a la trace. Et de temps en temps, une de ces musiques-là, on l'appellera jazz, on l'appellera reggae, on l'appellera zouk, on l'appellera samba. Une de ces musiques-là conquiert le monde.
Bertrand Dical, bien que votre ouvrage cherche à rétablir la vérité sur bien des domaines culturels nés de la créolisation, votre ton bienveillant tranche singulièrement avec divers documents sonores que nous avons retrouvés et qui illustrent tristement la difficulté des hommes à se parler, comme sur ce titre de George Brown, alias Young Tiger, un artiste trinidadien qui critique ouvertement le bebop de ses cousins d'Amérique. Ah ah.
This modern music's got me confused. To tell your friends I'm quite unenthused. This modern music's got me confused. To tell your friends I'm quite unenthused. I like Pee Wee Hunt or the Great Kong Basie, but can't make head nor tail of this Dizzy Gillespie with his oop-a-ba-da. Be-a-ba-do-la. Beep, bleep, bleep, oobe, 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 jump, chill ya ba, oop, up, a diddle, oom, ah, ah. Dizzy Gillespie is the creator of this new style in co with Charlie Parker.
Coleman, Hawkins, Howard Magee. They all indulge in this monstrosity. They take a major seventh and a flatted ninth, two Ooliakus and a half a pint. Then oop-a-ba-da, bi-a-ba-do-la, bi-bli-bli,
ooble, 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 jump till ya ba, oop-a-ba-dee, oop-a-ha.
Calypso Bebop, George Brown alias Young Tiger, qui s'amusait en 1956 à qualifier le bebop américain de monstruosité. Que vous inspire une telle diatribe, Bertrand Dical?
Alors moi j'aime beaucoup le calypso et surtout le calypso bavard, c'est-à-dire le calypso qui parle, qui commente l'actualité, qui chose qu'on sait peu, c'est que beaucoup de grands calypsoniens sont devenus des parlementaires, sont devenus des politiciens, parce qu'ils avaient la tchatche, parce qu'ils avaient la volonté de s'engager. Et en fait, ils étaient rentrés en musique avant de rentrer en politique, pour des raisons de démocratie dans leur pays, mais aussi parce que c'était la même démarche. Et on a cette musique douce, dansante, légère, soyeuse, et en même temps une espèce de violence de ton, et cet extraordinaire paradoxe dans lequel on dit « mais comment peut-il critiquer le jazz sans prendre au bebop, il devrait être frère ?» Non, les humains sont les humains. C'est-à-dire que, encore une fois, réfléchissons mutatis mutandis. C'est très compliqué pour un Trinidadien d'aimer un Américain. C'est extrêmement difficile d'aimer celui qui est de l'autre côté du jardin, de l'autre côté de la frontière, de l'autre côté de la barrière. Et c'est vrai que les musiques créoles sont souvent, alors on a tendance à dire des musiques de combat, des musiques de résistance, c'est souvent des armes de jet, c'est souvent des armes contondantes, c'est souvent des armes de combat. Dans la begin, dans le calypso, dans le reggae, dans le blues, dans un certain nombre de musiques populaires des États-Unis, évidemment dans la samba, au Brésil et dans les formes qui précèdent la samba. Alors c'est plus flagrant avec le calypso parce que c'est en anglais, il chante assez lentement, on peut très très bien distinguer ce qu'il raconte, mais on ne sait pas toujours si c'est la musique des opprimés ou la musique de l'oppresseur. Et ce qui est intéressant dans les musiques créoles, c'est qu'elles sont souvent les deux. C'est-à-dire que, bon, moi je viens de la Guadeloupe, on dit beaucoup de choses en Guadeloupe sur nos musiques de tambour, sur le gros cas, mais qui sont du pur fantasme. C'est-à-dire qu'il faut bien réfléchir que quand un esclave fugitif s'en va dans la montagne, il ne va surtout pas frapper sur un tambour. Et dans ce cas-là, le tambour, ce n'est pas du tout un instrument de résistance. Quand vous avez un esclave qui a un petit talent musical, que l'on repère d'une manière ou d'une autre, et qu'on lui donne un violon, qu'on lui dit « Tiens, toi, tu vas jouer du violon », qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire, l'esclave? Il va dire « Ouais, je vais jouer la musique de l'Afrique pour résister !» Non, non, pas du tout, il va jouer la musique du maître. Et il va jouer la musique du maître le mieux possible, et de la manière la plus satisfaisante possible, parce que comme ça, il ne retournera pas au chant. Et comme ça, il pourra obtenir, pour ses proches, pour ses copains, il pourra obtenir que, ah ben tiens, lui, il joue du triangle, il va jouer avec moi. Écoutez notre bon maître, comme lui, il joue bien du triangle. Et la musique, dans ce cas-là, c'est pas du tout un acte de résistance. C'est pas non plus un acte de collaboration.
La richesse de votre discours, Bertrand Dical, dans ce petit livre épatant, est telle que j'aimerais m'arrêter sur quelques points saillants, et notamment ce que vous évoquez, page 43. Les cultures créoles naissent de cinq phénomènes à la fois historiques, sociaux et culturels. Le déracinement, la rencontre, l'acculturation, la haine de soi et la fascination ambiguë. Est-ce que, au-delà des humiliations et brimades infligées aux esclaves africains par les colons européens, le sort des Noirs et des Blancs sur une terre nouvelle est semblable ?
D'une certaine manière, oui. D'une certaine manière. Je ne dis pas que le sort de l'un est plus enviable que l'autre. Je dis simplement qu'ils partagent un certain nombre d'expériences que, incontestablement, ils partagent. Ils ne sont pas sur leur terre natale. Ils sont dans un état de peur, de panique, d'angoisse, d'invention absolument permanent. Quand le corps expéditionnaire du général Richepanse vient en Guadeloupe pour rétablir l'esclavage, quelques centaines d'hommes meurent au combat, la moitié du corps expéditionnaire, dont le général Richepanse, meurt de la fièvre jaune. Ce sont des lieux d'une violence absolument incroyable comparativement à ce qui se passe en Afrique, comparativement à ce qui se passe en Asie, comparativement à ce qui se passe en Europe, qui sont à l'époque des terres peu pacifiques. Donc il y a une unité de destin. Et c'est pas parce que vous êtes séparés par un fouet que vous ne vivez pas le même cyclone, que vous n'êtes pas dans les mêmes angoisses quand on voit sur la mer arriver les voiles anglaises et qu'on sait que les Anglais vont tuer tout le monde.
Donc ça veut dire que la genèse des cultures créoles relève davantage d'un destin commun entre blancs et noirs que d'une confrontation ethnique.
Il y a confrontation, évidemment. Mais il y a aussi une destinée commune, il y a aussi un partage. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas une guerre qui dure 2 ans. C'est une situation qui dure 3 siècles et demi. C'est-à-dire qu'un esclave qui est né dans l'esclavage, c'est la vie de ses parents, c'est sa vie entière. Et puis il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a des noirs, il y a des blancs, mais il y a tout ce qu'il y a entre les deux. Ces sociétés sont des sociétés qui ont inventé un nombre de distinctions totalement démentielles entre le blanc et le noir.
Le résultat de cette rencontre trouve un écho dans la musique, comme cette contredanse du saxophoniste et chef d'orchestre haïtien Nemours Jean-Baptiste, qui ressemble furieusement à un quadrille français du Second Empire.
Prenez vos dames, messieurs. Et fisquez la dame aux yeux, messieurs. Donc la montre dans les poches, messieurs, les filles du messieurs. L'homme qui m'aime, c'est mon paresseur. Pour les paqueter, c'est mon balade. C'est pour baler nos jambes ici. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe.
Une contredanse signée Nemours Jean-Baptiste, artiste haïtien qui se fait l'écho en 1958 de l'influence coloniale française alors qu'Haïti était un pays souverain déjà depuis 150 ans. Est-ce que le fait de matiner ce quadrille français de sonorité merengue, voire bantou à l'origine, est un acte politique, Bertrand Dical?
Pour faire court, cette musique, c'est la musique des maîtres. C'est la musique des maîtres que les esclaves affranchis, avant d'être libérés, je parle des esclaves affranchis, vont s'approprier pour faire comme les maîtres. Pour dire « je suis libre », il y a 2 choses que font immédiatement les esclaves, tout au moins dans les terres francophones et hispanophones, quand ils sont affranchis, quand ils acquièrent la liberté, ce qui est un phénomène beaucoup plus fréquent que ce qu'on imagine d'ailleurs, c'est mettre des chaussures, parce que ça, c'est interdit aux esclaves, et faire des bals. Parce que le bal, c'est la liberté, le bal, c'est le prestige. Et ils prennent le quadrille. Et le quadrille va ensuite être approprié par les esclaves à l'abolition des esclavages. Donc il y a des pays où ces formes de quadrille vont plus ou moins se perdre, être oubliées progressivement. Les carabiniers à la Dominique, cette musique-là a disparu dans les années 40. Dans les années 50, en Martinique, a disparu la haute taille. Mais j'ai la chance de venir d'un pays, la Guadeloupe, où le quadrille existe toujours. Et quand j'étais enfant, dans les années 70, il existait toujours des bals à quadrille. Et dans les bals à quadrille, on avait le même type de musique que ce qu'on vient d'entendre, moins merengue évidemment, avec du violon ou surtout de l'accordéon. Et surtout, des commandements. Des commandements, on expliquait aux danseurs comment danser. Venez à la Vendée, faites la chaîne en 8, repartez en arrière, refaites un pas devant, croisez-vous les 8, etc. Mais c'était dit en français, mais un français qui était transmis de manière orale depuis 2 siècles par des créolophones. Parce que c'était le tout petit peuple. Et ce qui était fabuleux, c'était que le quadrille, c'était ce qu'on appelait la musique à vieux nègres. La musique des vieux nègres, mais surtout des nègres vulgaires. C'était une musique qui a posé beaucoup de problèmes aux indépendantistes et aux défenseurs d'une culture verticale guadeloupéenne. C'est-à-dire qu'un tambour, on peut dire oui, c'est l'Afrique, c'est la résistance, c'est le combat. Mais le quadrille, c'est beaucoup plus compliqué. On voit tout de suite que c'est de la musique française.
La musique classique européenne d'une certaine manière.
De la musique classique européenne qui n'existe plus que là. C'est-à-dire que quand les Français ont dansé le quadrille, il n'y a plus que nous, Antillais, ou dans l'océan Indien, aux Seychelles, qui avons continué à danser le quadrille. Et je pense que, au moins aussi important que l'Afrique réinventée, fantasmée, retrouvée, il y a cette capacité phénoménale à prendre à l'oppresseur sa musique, à la prendre, à se l'approprier, à la transformer en quelque chose qui est soi-même, qui est notre identité.
Bertrand Dical, dans Ni Noire ni Blanche, l'histoire des musiques créoles, paru aux éditions La Rue Musicale, vous utilisez des termes qui méritent quelques explications. Qu'est-ce que le jambalaya et le vélo ?
Oui, alors ce qui se passe et qui est phénoménal, alors quand on regarde l'épopée du reggae par exemple, tous les gens qui aiment le reggae connaissent le système Kumina, Buru, Ska, Rocksteady, et ainsi de suite.
Reggae, dancehall.
Reggae, dancehall, etc. Avec des dizaines de variations, etc. C'est simplement un vélo qui est lancé à toute allure. Et les cultures créoles fonctionnent et les musiques créoles naissent de deux manières, avec toujours un peu de jambalaya dans le vélo et un peu de vélo dans le jambalaya. C'est-à-dire qu'il faut foncer, sinon on tombe. Et c'est le mouvement perpétuel, apporter tout le temps des nouveautés. Alors parfois, c'est un peu de musique qui vient des États-Unis, parfois c'est une mode qui vient de France, parfois c'est un type qui a eu l'idée de retourner le tambour et de taper d'une autre manière, qui a eu l'idée de prendre un tesson de bouteille et de le passer sur les cordes d'une guitare et que ça fait un son nouveau, et soudain tout le monde se met à faire la même chose. Et puis le jambalaya, c'est on prend des éléments qui viennent de partout.
C'est le gombo de la Nouvelle-Orléans.
Ouais, c'est le gombo de la Nouvelle-Orléans, cette recette extraordinaire. On reconnaît les écrevisses, on reconnaît les petits pois, mais on reconnaît le riz, mais ça n'a pas le goût de riz, ça n'a pas le goût de l'écrevisse, ça n'a pas le goût du petit pois. Ça a le goût d'autre chose, ça a le goût de ce mélange-là. Et c'est ça, le génie créole, c'est mélanger des choses qui, a priori, n'ont rien à voir les unes avec les autres. Un peu de chant d'église, un peu de musique militaire, un air rapporté par un marin néerlandais, alors que personne ne parle néerlandais, un disque qu'on a entendu un jour en passant devant une maison, et puis la musique que chantaient les parents. Et puis avec ça, on fait une nouvelle musique, on invente quelque chose, et puis faire foncer le vélo, inventer toujours en permanence des nouvelles choses.
Pour illustrer votre propos, j'ai ressorti de notre imposante discothèque le titre African Shuffle de Count Ossie and the Waracas, 1961. L'un des maîtres tambours de la Jamaïque et pionnier de la culture rasta, c'était Count Ossie en 1961 dans cet African Shuffle qui rappelle le mento jamaïcain avec oui. Un petit peu de boogie-woogie américain, dirons-nous.
Avec un petit peu de boogie-woogie américain, c'est une époque. Alors, il y a le grand standard O Carolina des Fox Brothers sur lequel il joue aussi, qui est son premier enregistrement, je crois, et qui est une espèce de plagiat d'un titre de Fats Domino. C'est-à-dire que Count Ossie est un rasta, il vient de la campagne, c'est un tambourinaire bourru, donc il joue aussi un tambour qui a été revivifié par l'arrivée de travailleurs, entre guillemets, volontaires africains dans les années 1880 en Jamaïque, mais on est quand même 80 ans après encore. Mais lui, il est totalement cramé, complètement irradié par le bebop. Lui, ce qu'il a envie, c'est d'être Charlie Parker. Et en fait, quand on l'écoute, c'est Charlie Parker. Il joue Charlie Parker sur un tambour dit africain, parce que c'est un tambour qui est d'une facture jamaïcaine, en fait. Mmh. Et c'est ça qui est absolument fou. C'est-à-dire que si on a envie d'entendre un rythme africain dans une musique commerciale du début des années 60, on peut le faire, c'est juste faux. Si on regarde quelle est la vie de Count Ossie, qui est un rasta de la campagne, qui vient s'installer en ville, qui est à la fois un homme extrêmement spirituel, mais un obsédé de musique, qui passe sa vie à écouter des disques. Il rêve pas à l'Afrique de jadis. Non, non, il écoute les dernières nouveautés américaines qui arrivent chez les disquaires. Et effectivement, c'est ça qui fait que on a l'impression d'une musique, d'un jeu totalement raciné dans l'Afrique, alors que c'est aussi un jeu totalement antillais, jamaïcain, et en même temps totalement américanisé.
Bertrand Dical, l'émission est trop courte pour évoquer tous les chapitres de votre livre. Nous aurions pu parler de zouk, de polka, de mazurka, que sais-je encore. Mais je préfère renvoyer nos auditeurs à la lecture de votre ouvrage « Ni noir ni blanche, l'histoire des musiques créoles » paru aux éditions La Rue Musicale. Merci mille fois d'être passé nous voir, Bertrand
Dical. Merci à vous.
Je profite de votre présence, Bertrand, pour annoncer le concert du guitariste Ralph Lavital le 10 juin au Sunside à Paris, où il présentera son excellent premier album intitulé Carnaval. Vous connaissez cet artiste ?
Oui.
Bon, vous irez le voir.
Peut-être bien, oui.
Je rappelle également que le Paris-New York Heritage Festival débute le 8 juin prochain à Paris, mais aussi à New York et Montréal. Vous retrouverez des artistes dont l'ouverture d'esprit promeut les cultures créoles, de Roy Ayers à Cheoun Kouti. Le Paris-New York Heritage Festival, c'est jusqu'au 26 juillet. La semaine prochaine, nous aurons le bonheur de converser avec Big James Montgomery, l'un des brillants trombonistes de Chicago qui a illuminé le Jazz Club Étoile il y a quelques jours à Paris. Merci Nathalie Laporte, secondée par Élise pour la réalisation créole du jour. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours. Dans 30 secondes, le journal.